C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue parmi nous pour cette 9e émission, Les Boulons, l'émission des Boulonnais. J'ai la joie de présenter cette émission avec Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour Fernande. Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus sur cette émission, cette 9e émission ?
Oui, et bien dans un premier temps, Michel nous parlera du sport et Pierrick évoquera la musique.
Une petite pause musicale par Thomas, puis la sophrologie sera abordée avec Hugo et son invitée Sophie de Sophropartage.
Ensuite, Elisabeth nous parlera d'art thérapie, suivie d'une pause musicale, toujours par Thomas.
Le suivi CMP sera abordé par Josiane et son invitée Béatrice, infirmière au CMP Nord.
Ensuite, Elisabeth présentera le livre d'amour de Joël Archon.
Nous finirons notre émission par la dernière pause musicale de Thomas. Alors Fernande, on accueille Michel maintenant.
Oui. Bonjour Michel.
Bonjour Fernande. Bonjour les auditeurs.
De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Je vais faire une rétrospective des sports collectifs, le foot et le basket, de la saison 2016-2017. Et je ferai une parenthèse aussi à la fin pour parler d'un athlète de haut niveau que nous avons en Boulogne, Jimmy Gressier. Bon, je vais commencer par la Ligue 1 de football. Bon, le champion, c'est l'AS Monaco. Le deuxième, le PSG. Le troisième, Nice. Ces trois équipes vont nous représenter en Ligue des champions. Nice devra passer le tour préliminaire contre l'Ajax Amsterdam. Bon, je précise que Lille a terminé en milieu de tableau dans le championnat. Ils se sont renforcés avec beaucoup de joueurs sud-américains et ont fait venir l'entraîneur qui a entraîné Marseille, Marcelo Bielsa. En Ligue 2, la montée, c'est pour 3 Strasbourg et une surprise, Amiens, qui est quand même un club de la région, qui va jouer pour la première fois à ce niveau. Lens est, malheureusement ne montera pas en Ligue 1, ils ont fini 4e du championnat. Valenciennes s'est maintenu dans la moitié du classement également. Dans le championnat national, Boulogne finit 10e du championnat, donc ils étaient bien partis, ils ont même été en tête à un moment donné, mais bon, la deuxième partie a été beaucoup moins bien. Dunkerque reste également national, mais Dunkerque espérait également monter en Ligue 1, mais en Ligue 2, pardon, mais restera en national. Je vais préciser aussi pour le foot féminin, Boulogne jouait en deuxième division et hélas elles ont terminé à la dernière place, donc elles redescendent en national 3. Je vais maintenant vous parler du basket. Bon, une grosse satisfaction avec le Portel qui a terminé 7e du championnat de Pro A. Ils ont pu jouer les play-offs contre Chalon-sur-Saône, qui était le futur champion de France, qui a battu Strasbourg en 3 manches. Gravelines a fini 9e du championnat, donc n'a pas joué les play-offs. Je vais vous préciser aussi au niveau des matchs de préparation. Le Portel organise un tournoi le 9 et 10 septembre avec BCM Gravelines, Ostende et Bruxelles. Le championnat redémarre le 22 septembre, ça sera contre Cholet au Chaudron. Également une autre surprise, le Portel va peut-être jouer une Coupe d'Europe, mais devra passer un tour préliminaire, c'est au début octobre. À noter aussi, bon, là c'est pas une bonne nouvelle, la descente du SOMB en National 1. On aurait préféré les voir se maintenir quand même en Pro B, c'est quand même leur place. Bon, maintenant je vais vous faire une parenthèse sur l'athlétisme. la victoire de Jimmy Gressier aux 10 km de Boulogne à laquelle j'ai participé.
Bravo, je l'ai vu, je confirme, il y était.
C'était vraiment une démonstration. Il a plus d'une minute d'avance sur le deuxième. Il a disputé les championnats de France de 1500 mètres à, je ne sais plus où c'était, mais enfin c'était...
En Pologne.
Championnat de France 1500 mètres. Il a fait deuxième en 3 minutes 48 secondes et 49 centièmes. Et il a fait, comme Luc disait, il a fait en Pologne les championnats d'Europe espoir. Malheureusement, il a été éliminé puisqu'il il a bousculé un plot. Il a été disqualifié, mais bon, c'est les aléas du sport. Il a tout l'avenir devant lui, il a une vingtaine d'années, il a encore des belles années à venir. Voilà.
Et vous, Michel, vous avez fait combien aux 10 km de Boulogne-sur-Mer?
Moi, j'ai fait le 5 km.
Il a fait 5, je confirme.
Ouais, j'ai fait aussi bien que le premier du 10 km.
Il y a quelques coureurs qui ont quand même le mérite d'avoir fait et le 5 et le 10. Ils ont enchaîné les deux courses dans la matinée. Il y avait beaucoup de monde.
Oui.
Il faut remercier le Boulogne Athletic Club qui a organisé.
C'était très bien organisé.
C'était vraiment très bien organisé. Bon, j'ai pas de mérite, je suis bénévole, donc je le dis. Ouais. Mais c'était vraiment une belle fête du sport, les sens du terme, avec beaucoup de coureurs, des gens qui se sont lancés aux 5 km, qui ont fini la course, et c'était vraiment une belle performance. À noter que l'année prochaine, ça va être un très gros événement, puisqu'il y aura quoi, Michel ?
Il y aura un 10 et un 21 ou un
semi-marathon.
Un semi-marathon, donc 21-100.
Voilà, ça va être une année un peu spéciale.
Oui, j'espère qu'ils nous feront un beau petit parcours pour amener beaucoup de monde. Mais c'est vrai que ça va attirer un peu de monde. Le semi-marathon, c'est quand même une distance mythique.
Oui, mythique, tout à fait.
Voilà.
On espère qu'il y aura beaucoup de monde.
Eh bien, merci beaucoup pour cette belle chronique.
Merci à vous.
Alors, Fernand, on accueille qui maintenant ?
Pierrick qui va nous parler de musique.
Bonjour Fernand et Cédric, bonjour les auditeurs et les auditrices, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter une chronique sur la musique. La musique est vraiment quelque chose d'incontournable dans nos vies. On a tous une musique qui nous remue aussi bien mentalement que physiquement, qui est la personne qui n'a jamais eu un frisson en écoutant une musique. Moi, la musique a bercé mon enfance et mon adolescence. Toute ma vie, j'ai été possédé par la musique comme un remède à ma déficience mentale. La musique a quelque chose de magique, elle soigne tous les maux et toutes les peines, aussi bien sentimentale qu'affective, que sociale ou familiale. On trouve toutes les sortes de musique dans tous les styles, amour, romantique, rock, underground, punk, classique, folk, reggae, rap. Il y en a pour tous les goûts, possibles et inimaginables. Quand j'étais adolescent, je vivais avec le Velvet Underground, les Iggy Pop et les Stooges. Ces groupes m'ont mené dans un autre univers, me transportaient littéralement. On peut se poser une question, est-ce que la musique ne peut être une manière d'échapper au monde réel ? Est-ce que la musique n'interfère pas dans nos vies cérébrales ou spirituelles ? Je pense que la musique, aussi enrichissante soit-elle, peut nuire à notre vie sociale ou nous projeter dans un monde qui nous sépare de la réalité du système. Je pense que la musique, on peut se perdre à tout jamais. Avec la musique, on peut se perdre à tout jamais. Il faut, à mon avis, se méfier plus qu'à l'heure actuelle de la musique. Je me demande ce que les groupuscules terroristes utilisent comme musique pour endoctriner les gens dans leur fanatisme. Ça me fait penser aux musiques de l'armée rouge en Russie. Je pense que le communisme est porté par la musique de l'armée rouge. Je ne suis pas contre le communisme, je trouve que c'est une belle et grande idée, mais l'homme est ainsi fait. Quand on écoute les chants de l'armée rouge, il y a quelque chose qui nous transporte. Je pense que les musiques de l'armée rouge font corps et âme avec cette belle et grande idée qu'est le communisme, parce que la musique est avant tout une histoire d'artiste. Et qu'est-ce qu'il y a de plus humain qu'un artiste ? Donc je pense que ces artistes russes font part entière avec cette belle et grande idée. J'avais un ami russe qui me disait que l'URSS n'était pas du tout ce qu'on disait en Occident, que c'était pour lui une forme de paradis. Où est la vérité, je ne le saurais jamais. Mais il portait cette belle et grande idée quand il parlait de l'URSS dans ses yeux. Voilà, je vous ai présenté une chronique sur la musique et le communisme.
Merci beaucoup.
Moi, personnellement, Pierrick, je ne trouve pas qu'on puisse se perdre cérébralement mentalement dans la musique. Je trouve plutôt que la musique, c'est quelque chose à décortiquer.
Oui, mais la musique peut amener vers les drogues, comme le Velvet, ils ont une chanson qui s'appelle Héroïne, et il y avait un chanteur qui...
Oui, bien sûr. Après, comme tu le dis, il y a tous les genres, mais... Mmh. d'après moi, c'est quelque chose qu'il faut, apprendre, il faut déballer et puis l'adapter.
C'est peut-être aussi des cas isolés.
Ouais, c'est des cas isolés.
Parce que vous parlez de chanteur,
ça rassemble aussi la musique.
Ça rassemble, ça nous transporte.
C'est vrai que là, il y a eu le festival de la Côte d'Opale. C'est quand même des moments où ça rassemble.
Il va y avoir au Constock le week-end du.
Mais c'est vrai que quand tu nous dis que l'armée rouge utilise la musique, c'est vrai que toutes les grandes dictatures ont utilisé la musique pour nous en brigader dans leur, dans leur idéologie naze.
Oui, mais, oui, mais partout la musique est utilisée. Hein, donc, je veux dire, on va à l'église, il y a de la musique. Ouais, voilà, donc je crois qu'il y a des chants religieux, il y a toute forme de chants, de. Moi, je crois que pour vous, la musique, elle vous permet un dépassement de soi, il me semble. Hein, n'est-ce pas, Thomas? Il me semble. Hein.
Bah, oui, je pense qu'Hugo et moi, comme on en fait tous les deux, c'est aussi un moyen de s'exprimer, de sortir des choses qu'on vit, qui seraient restées intérieures si on ne créait pas à partir de ce qu'on vit régulièrement. Quoi. Donc, c'est un peu une vocation thérapeutique, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je l'utilise comme ça tout en...
Ouais, c'est thérapeutique, la musique, c'est sûr.
Ouais, voilà.
Moi, je l'utilise comme ça aussi, ouais.
Après, en écouter, ça peut être un biais aussi. Moi, je suis autant d'accord avec Hugo qu'avec Pierrick, ça peut autant être un piège qu'une libération.
Tout à fait.
Ok.
Vaste débat.
Ben ouais, vaste débat et intéressant en même temps. Hein. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Fernande?
Maintenant, nous allons écouter Thomas qui va nous présenter son choix pour cette première pause musicale.
Ouais, donc voilà la première pause musicale. Donc c'est une chanson, une reprise d'un vieux standard de rock que tout le monde connaît, Deep Purple, Smoke on the Water, Fumer sur l'eau. Donc c'est le trio de Pierre-Jean Gaucher, qui est un guitariste, accompagné d'un violoncelliste et d'un batteur percussionniste. Voilà, bonne écoute. Thank you.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
De retour avec les boulons sur Transat FM, nous allons maintenant écouter Hugo.
En effet, Hugo va nous parler de sophrologie avec son invitée Sophie de Sophropartage. À toi Hugo.
Merci Cédric. Bonjour Sophie.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Sophie, tu es sophrologue, donc explique-nous en quoi ça consiste la sophrologie.
Alors la sophrologie c'est une méthode pour harmoniser le corps et l'esprit. Plus simplement peut-être on peut dire pour harmoniser le corps, les pensées, le comportement. On va développer le potentiel, on a tous un potentiel, mais on va le développer et l'utiliser, apprendre à l'utiliser.
Alors, par quel moyen, qu'est-ce que tu proposes comme exercice?
Alors, c'est tout un entraînement. En fait, la sophrologie, on va dire, c'est très simple. C'est une boîte à outils. Mmh. On va apprendre aux gens à utiliser ces outils, on va les rendre autonomes. Mmh. Le but, c'est que les gens puissent le faire tout seuls chez eux et qu'ils aient les outils tout le temps à disposition. Mmh. C'est un entraînement personnel, en fait.
Mmh. Et ça passe par méthodes de respiration
Oui, on va utiliser la respiration. On va surtout travailler un niveau de conscience qui est modifié. Un niveau de conscience qui est situé entre la veille et le sommeil. Le niveau sophroliminal où le cerveau va intégrer 30 à 40 fois plus vite. Plus fort que maintenant. Là, on est en état de veille classique.
Bon. Ok. Et j'avais juste une petite question. Vous en êtes arrivé à faire de la sophrologie comment? Qu'est-ce qui fait que vous avez pris cette décision-là?
Alors,
comment ça s'est passé?
Au départ, rien ne nous prédestinait à faire de la sophro. Avec mon mari qui est également sophrologue, ouais. On est tous les deux juristes.
D'accord.
Moi, j'étais dans l'immobilier, lui au tribunal de commerce. On a créé un cabinet de contentieux. Et puis, le cabinet de contentieux, Vincent a explosé en vol. Il a fait un burn-out terrible. Mmh. Moi, j'étais déjà tournée vers tout ça, et ça a été l'occasion de tester, de voir que la sophrologie fonctionnait bien, et puis on s'est installé, on a changé de vie.
D'accord. Donc, vous étiez juriste aujourd'hui, vous intervenez encore pour
pour les entreprises, tu veux dire?
Pour les entreprises.
Oui, alors on a chacun notre spécialité, si je puis dire. Vincent est plutôt dans les entreprises, les assos, enfin dans le monde du travail, les adultes. Moi, je suis plutôt auprès des enfants, des ados, parce que la sophro, elle se décline vraiment envers tous. Donc les enfants, les ados, les personnes âgées, les adultes également, et puis les personnes en situation de handicap.
D'accord.
Donc, par exemple, je crois savoir que vous participez à des ateliers avec les ZAT.
Oui. Alors, la sophro n'est pas intellectuelle. Donc, c'est le sophrologue qui va s'adapter aux personnes et on va proposer des exercices adaptés aux personnes pour qu'ils puissent le faire et pour qu'ils puissent en bénéficier. Et ça fonctionne très, très bien.
Est-ce qu'on peut dire ce que c'est qu'un ESAT?
Alors, c'est une entreprise de, comment je veux dire, adaptée.
Oui, ouais. C'est un atelier
protégé.
Protégé, oui, adapté.
Voilà.
Ouais. Je voulais poser une question. Combien dure une séance de sophrologie? Combien de temps?
Alors, pour un adulte, c'est une heure. Et pour un enfant, jusque 10, 11 ans, ça va être 30 minutes. Parce qu'ils n'ont pas des capacités de concentration énormes. Donc, on va réduire la séance et ça va être des méthodes adaptées également pour les enfants. Ça va être beaucoup plus ludique.
D'accord. Et ça se fait en groupe, en individuel?
Alors, on a deux côtés, si je puis dire. On est libéral, tous les deux. On a un cabinet, on reçoit les gens en individuel.
D'accord.
Et puis, on a le volet social avec l'association, où là, on a des groupes pour tout niveau, pour les adultes, pour les enfants, pour les seniors, pour les personnes également en situation de handicap.
Ça peut être un soin aussi à domicile, non?
C'est pas un soin. La sophro, c'est pas un soin. On ne va pas se substituer à un traitement médical et on ne soigne pas.
Pour l'instant.
Donc, sujet-là, est-ce que la sophro est remboursée par la sécurité sociale?
Pas encore. C'était une promesse de campagne de notre président Macron. Est-ce que ça sera tenu? Je croise les doigts.
Donc vous intervenez, Hugo, toi tu en fais un peu de la sophro,
oui,
c'est ça, dans le cadre du
Bel Envol.
Du Bel Envol.
Oui.
Donc vous intervenez dans des structures aussi. Donc t'en penses quoi toi Hugo de la sophro justement?
C'est, C'est vraiment un moment où on peut se lâcher, tout oublier, et faire ça en plus avec les gens qu'on côtoie au quotidien.
Ouais.
C'est vraiment une thérapie, c'est pas seulement sur le développement personnel, c'est aussi apprendre à partager plus de choses ensemble.
D'accord.
Oui. En fait, on vient donner des outils concrets.
Ouais.
On peut dire aussi que la sophro, c'est pas le pourquoi je vais mal, ça va pas nous intéresser, nous, sophrologues, c'est surtout comment aller mieux. Mmh. Donc donner des outils concrets, comment je fais quand je suis en colère, comment je fais quand je suis triste, comment je fais pour revenir bien, gérer le stress, gérer les émotions. On peut gérer les douleurs également. Elle a plein d'applications, la sophro. Chacun va venir trouver ce qu'il cherche.
Alors, moi, ça m'interpelle parce que je me demande pourquoi ne pas faire une séance avec un schizophrène. Vous aviez dit qu'il y avait un méfait pour ces personnes-là.
Je fais de la sophrologie avec le bel envol, avec des personnes schizophrènes. Seulement, c'est au sophrologue de s'adapter. Il peut y avoir des techniques, et il y a des techniques complètement interdites. Donc, avec les personnes schizophrènes, on va faire de la sophro light. On ne va pas faire tous les exercices qu'on ferait dans un autre cadre. Mais les bienfaits, hein, Hugo, tu es d'accord avec moi, les bienfaits sont les mêmes. Je veux dire, la respiration, tous les outils pour le stress, tout ça, vous les avez.
En parlant de restrictions, de la portée de votre action sur notre psyché, je crois savoir que vous nous avez demandé d'avoir un certificat médical récemment.
Alors, c'était pas pour la sophro, c'était pour le yoga du rire.
Exactement.
Parce que vous faites également ça, donc yoga du rire. Alors c'est quoi?
En fait, je suis venue au yoga du rire parce que dans des fois dans certains groupes, les personnes ont du mal à venir à la sophro.
Ouais.
Donc, le yoga du rire, c'est beaucoup plus direct. Elles vont lâcher beaucoup plus vite. D'accord. Donc, c'est quoi le yoga du rire est né en Inde par un médecin indien. Enfin, pas indien, mais en Inde, hein, pas...
Un hindou,
on va dire. Et donc, il a créé le rire sans raison. Et il s'est aperçu que finalement, les effets sur le corps étaient les mêmes, que ce soit un rire simulé ou un rire spontané, les effets sur le cerveau, sur le corps sont les mêmes. Une minute de rire, c'est 35 minutes de respiration, de relaxation, et c'est 10 minutes d'aviron de jogging.
Wow.
Donc, on ressort, on est bien fatigué, et on a repris de l'énergie.
Ok.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que l'hypnose fait partie de la sophrologie ou pas?
Alors, c'est une bonne question. Au départ, le fondateur de la sophro, qui est le neuropsychiatre Quecedo, avait créé une société d'hypnose clinique. Et puis, il s'est vite rendu compte que l'hypnose rendait dépendant. Donc, il a arrêté l'hypnose et il a gardé la sophrologie. Même si on a des bases, même si on a des petites choses d'hypnose, ce n'est pas de l'hypnose. La sophro va vraiment rendre autonome. L'hypnose a toujours besoin de la personne pour aller faire une séance d'hypnose. Nous, le but, c'est de vous donner des outils, une caisse à outils, et que vous puissiez l'utiliser tous les jours. Un exemple, vous êtes en entreprise, vous avez une montée de stress parce que votre patron vous a appelé dans son bureau, vous n'allez pas m'appeler. Il faut que vous puissiez le faire tout seul. Et là, vous aurez les outils pour baisser le stress, pour y aller, pour pouvoir lui parler vraiment... de façon productive.
Alors, si ça m'intéresse et je désire m'inscrire, il est où votre cabinet sur Boulogne?
Alors, on est dans le vieux Boulogne, dans la rue de la Balance, et puis également la maison des assos, où on fait beaucoup de séances.
Rue Vicardenne?
Rue Vicardenne, 19.
D'accord.
Alors, vous m'aviez expliqué des petits déjeuners, découvertes, hein, c'est ça?
Oui, alors, en fait, avec l'association, chaque mois, on fait le premier samedi du mois un petit déjeuner découvert pour permettre aux gens de découvrir la sophro de façon plus conviviale.
Oui.
Donc, ça dure de 9h30 à 11h30. Ça coûte 7 euros. C'est le même prix que nos séances en groupe. Hein, ça ne coûte pas plus cher. Et là, on va avoir une explication de ce que c'est que la sophro, les mécanismes, un petit déjeuner copieux et puis une séance.
D'accord.
Alors, par contre, pour ce mois de septembre, ça ne sera pas... on est à la Liane dans le cadre de la fête des associations et la fête du sport. On va être présents les deux jours. Donc, c'est reporté au samedi, ça doit être le 8 septembre, il me semble, de mémoire.
D'accord, d'accord.
Enfin, le premier, le samedi qui suit, le premier samedi de septembre, exceptionnellement.
Ouais. Vous aviez parlé aussi d'entreprise, hein, Hugo, donc vous intervenez, tu avais posé la question.
Dans les comités de...
Oui. Alors, je suis étonné, moi, donc vous intervenez...
Vincent est intervenu au champ.
Donc les entreprises demandent pour le personnel, comment ça fonctionne?
Bien sûr, pour le personnel, pour le stress, pour aussi la gestion des conflits, puisque si les personnes sont plus détendues, il y aura moins de conflits entre les personnes. Et puis, ils vont apprendre à les résoudre beaucoup plus facilement. Ici, il y a Armatis, il y a Auchan. On va aussi dans les écoles, dans les lycées, pour la préparation aux examens. Ça fonctionne très, très bien.
Il y a aussi l'activité qui est proposée à l'hôpital de jour.
De
sophrologie.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a
C'est pas ça.
Il y a
c'est
un
pas
atelier.
Nous.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un atelier sophrologie au niveau de l'hôpital de jour. Ouais, tout à fait.
Je veux dire, moi, quand on a démarré, j'étais pas du tout...
Pour
Je me disais, oh là là, c'est un peu comme... on va pas te dire de l'hypnose ou de la voyance, quoi. J'avais ce cliché-là en tête, quoi, avec sa boule de cristal, je sais pas.
Non, c'est très scientifique, hein, tu as vu, c'est très scientifique. Et en plus, la sophro, comment ça se passe? C'est assis ou debout, c'est jamais couché. Si on vous propose une séance de sophrologie couchée, il faut fuir, c'est que c'est pas quelqu'un de bien. Donc, on ne parle pas pendant une séance de sophro, parce que ça, on me le pose toujours, on me dit, est-ce qu'il va falloir que je déballe devant tout le monde mes problèmes, mes soucis? Non. On ne va pas parler en groupe. Hein. On va juste avoir un temps d'explication de la technique. Après, on fait la technique et après, on fait une phénodescription qui est un débriefing, en fait. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Comment on a vécu la séance?
D'accord.
Est-ce qu'on peut parler de relaxation? Est-ce que ça touche un peu la relaxation? Alors, c'est juste un outil, la relaxation, pour la sophrologie.
Alors, on utilise de la relaxation, mais comme je le disais tout à l'heure, on travaille à un niveau de conscience qui est différent. La relaxation s'arrête là où la sophro va commencer. C'est-à-dire que nous, on va dans un niveau de conscience beaucoup plus profond.
C'est ça qui fait peur en a priori.
Il ne faut pas avoir peur, vous y passez tous les jours. Mm-hmm. Le matin quand vous vous réveillez, le soir quand vous endormez. Seulement là, à ce moment-là, votre cerveau, il est au top. 30 à 40 fois plus vite. Les hormones également vont se libérer pendant cette séance. Donc des endorphines, de la dopamine, hormones de la bonne humeur. Et puis surtout, vous allez baisser vos ondes cérébrales. Et en baissant les ondes cérébrales, finalement, on se sent mieux. Et quelqu'un qui ne dort plus, quelqu'un qui a des insomnies, c'est quelqu'un qui ne baisse plus ses ondes cérébrales, tout simplement.
D'accord. Et pour l'arrêt de la cigarette, la sophrologie, elle est utile ou pas?
Alors, ça va être un complément, pas tout seul. Il faut vraiment que vous soyez aidé avec des patchs ou avec
On parle même, plus d'hypnose, hein, généralement.
On va avoir les mêmes résultats. Oui, mais pas tout seul.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne ait vraiment une motivation très forte pour arrêter.
D'accord. OK. Eh bien, merci beaucoup. Hugo, as-tu d'autres questions?
Non, je voulais remercier Sophie.
Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir. Alors, à très bientôt. Maintenant, c'est la chronique d'Elisabeth.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour Fer.
Tu vas nous parler d'art-thérapie.
Oui, l'art-thérapie consiste, au travers de la création artistique, qu'il s'agisse de peinture, dessin, de théâtre, de danse, de modelage, de radio ou de photo, de pénétrer les problématiques parfois inconscientes d'une personne et l'amener vers une transformation positive d'elle-même, en partant de ses douleurs, violences, ses contradictions, pour en faire le matériau d'un cheminement personnel. C'est alors que peut naître une construction, une production qui tend vers l'art. Le coloriage est totalement adapté aux adultes. Il se dit même que Kate Middleton y serait accro. Mettre en couleur permet de lutter contre le stress, d'installer la sérénité, de lâcher prise, de ressentir un apaisement, de se ressourcer, se recentrer. Il doit avant tout être un plaisir, donc il n'est pas question de se presser à vouloir terminer son coloriage. Depuis les années 2000, le mandala séduit un public croissant à la recherche d'un mieux-être. C'est un voyage au cœur de soi-même. Le mandala vient du sanskrit et signifie cercle. Ce cercle magique est présent dans de nombreuses traditions, notamment hindouistes et bouddhistes, comme support de la méditation. On en retrouve encore des réminiscences dans les rosaces colorées de nos cathédrales. Il y a deux manières principales de colorier un mandala. En partant du centre vers l'extérieur, il permet de se relaxer. À l'inverse, en partant de l'extérieur vers le centre, il permet de se concentrer. J'ai recueilli dans mon groupe de dessin coloriage sur Facebook quelques témoignages sur ce qu'apportait le coloriage de mandala, et éventuellement le fait de les partager dans les groupes et d'en avoir des commentaires. En voici quelques-uns. Je ne quitte plus mes livres de mandala. Je retrouve une certaine sérénité à les faire. Cette personne avait posté 4 mandalas cette semaine. J'adore ça, car ça me détend. C'est joli. J'y passe environ 2 heures par jour, si possible. Les poster dans les groupes de coloriage, et si possible avoir des commentaires, permet de montrer ce que je sais faire. Et avoir des compliments, ça fait du bien. J'adore les mandalas, car on peut vraiment laisser libre cours à son imagination. C'est chaque fois différent. Je fais environ 3 heures par jour, des fois même plus. J'ai fait un AVC il y a 1 an et demi. Ça me déstresse et me permet en même temps de travailler la dextérité fine, surtout les petits détails qu'après mon AVC, je n'arrivais plus à colorier. Mes progrès sont réels. Je me suis lancée depuis 1 an et demi. Ça me déstresse après une journée de travail intense, puis les devoirs, les enfants. Ça détend, c'est fou. C'est super motivant de voir les mandalas que les artistes imaginent. J'ai donc sollicité le témoignage d'une amie dessinatrice de mandalas. Créer me permet d'aligner mes énergies et m'a profondément aidé à guérir de troubles bipolaires. L'apport de couleurs m'aide à stabiliser des crises qui ont à ce jour disparu. Quant à la fréquence, je vis avec un crayon vissé à la main. Si vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure créative ou trouver des mandalas coloriés, j'aurais tendance à dire partout, sur Internet, dans les magazines, dans des livres. Quant au matériel, à chacun de choisir sa préférence. Crayon, feutre, pastel, peinture. Le matériel dit « basique », issu de supermarché ou de magasin discount, convient tout à fait, ne serait-ce que le temps d'apprivoiser les mandalas, de choisir son matériel favori. Pour moi, c'est les crayons et le pastel. Après, si l'on veut, si l'on peut, un investissement peut éventuellement avoir lieu. À titre personnel, je pratique le coloriage et la peinture avec un bonheur non dissimulé. Le coloriage de mandala notamment m'a aidé peu à peu à me concentrer, à me poser, à créer quelque chose de positif.
Elisabeth, c'est qui Kate Middleton?
Je pense que c'est l'épouse du prince William, la maman de 2 charmants petits bambins. Elle a rencontré, ça avait fait un gros buzz sur Facebook, elle a rencontré Joanna Basford, c'est une dessinatrice écossaise qui fait des livres du tonnerre. Et voilà.
Merci.
Merci. Ça, on peut faire avec un fond de musique également.
Tout à fait. Oui. Je mets facilement.
Musique douce.
Une petite musique. Quand je suis à la maison, c'est ATTP, c'est les bruits ambiants.
Ouais.
mais à la maison, je mets facilement ou la télé, une chaîne musicale, ou un petit fond de musique douce, et puis je me laisse aller.
Et ça détend.
Oui, tout à fait.
Fernande, t'en fais toi des mandalas ou...
Non, j'ai pas de patience.
T'as pas de patience?
À ce moment, j'ai pas de patience. Hein.
Non.
J'ai le goût de rien à ce moment, mais ça va revenir.
Bah oui, ça va revenir. T'es là, regarde. T'anime l'émission. Hugo, t'en as déjà fait ou pas?
Pas spécialement.
Moi, j'avais essayé à un moment donné, cadre d'une formation. Thomas, t'as déjà...
Oui, c'est pas... Enfin, je n'apprécie pas plus que
voilà,
ça.
Voilà, c'est pas quelque chose... Et Vanessa, toi, t'as...
Moi, j'aime bien mettre en couleur. Je sais pas dessiner, mais c'est vrai que colorier des mandalas, c'est intéressant.
Ouais, ouais.
C'est apaisant aussi.
Oui, très apaisant. Bah,
c'est intéressant parce que ça vous remet dans l'instant présent.
Tout à fait.
Et donc, ça va vous déstresser comme la sophro.
Et pendant quelques jours, si globalement, si je ne colorie pas, j'ai un petit manque, il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, tu as une petite question.
J'allais dire quelque chose à Elisabeth.
Oui.
Que la dernière fois, je l'ai dit, mais ça n'a pas passé.
Vas-y, dis.
Tu dessines bien. Rosa TTP fait des beaux dessins dans les carreaux. C'est magnifique.
Tu fais les...
Allez, je commence un peu à dessiner, mais je préfère colorier.
Moi, je ne serais pas capable de faire. Qu'est-ce que tu fais hein?
Bon, c'est vrai qu'elle est assez douée. Elle fait pas mal de belles choses au CATTP. Elle nous gribouille les vitres régulièrement.
Je fais des gribouillages, effectivement.
Et tu mélanges les feutres et le crayon de bois aussi, là. Ça te fait une matière différente.
Moi, c'est surtout
sur le dessin.
Comme je disais, c'est surtout les crayons de couleur, les pastels secs. La peinture, si je fais des peintures, c'est de la peinture. Y a des techniques qui sont proposées par des artistes. Il y en a notamment une qui pose le feutre et qui passe au crayon de couleur dessus. Je la maîtrise pas encore, celle-là.
Ok, eh bien, merci beaucoup, Elisabeth,
avec
pour cette belle chronique.
Merci.
Alors, Fernande, que penses-tu d'une petite pause musicale ?
Avec plaisir, Cédric. C'est Thomas qui va nous présenter son choix musical pour cette seconde pause.
Oui, voilà, donc la deuxième pause musicale, un petit morceau de Craig Armstrong. C'est un des musiciens du groupe Massive Attack qui a fait des albums solo. Donc c'est un morceau qui a servi de générique pour une émission sur France Inter à une époque qui ne se fait plus, mais qui s'appelait Humeur Vagabonde, avec Kathleen Evin, qui a duré quelques années quand même. C'est un morceau que je trouve particulièrement beau, qui s'appelle Finding Beauty. Voilà, bonne écoute.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
De retour avec les boulons sur Transat FM 98.5 pour cette troisième partie d'émission, donc Josiane et Béatrice qui est infirmière au CMP Nord. Elles vont nous parler du suivi au centre médico-psychologique et du travail de l'infirmière dans un CMP.
Moi aussi, je suis suivie au CMP par mon infirmière Catherine.
Alors, elle fait quoi Catherine? Elle vient de voir...
Régulièrement, pour lui parler et dire...
voir comment tu vas.
Comment que je vais, parce que des fois, je suis pas, c'est pas le top.
C'est pas le top.
Et j'ai un grand merci envers elle.
Ça fait combien d'années qu'elle...
À peu près une dizaine d'années, je crois.
Ah ouais, quand même, une dizaine d'années.
Ouais.
Elle t'accompagne quand il y a besoin, je sais
ouais,
aussi.
Et je l'aime bien, elle est très gentille.
Ouais. Il y a la couleur aussi.
Elle fait mes couleurs, mes cheveux, elle prend du temps.
Elle prend du temps pour toi.
Elle m'emmène en voiture pour faire des achats.
Quand t'as besoin, ouais, elle t'accompagne.
Ouais, c'est, bon.
Ben, c'est très bien, super. Josiane, donc tu es là pour interviewer ton infirmière, on dit. Interviewer Béatrice qui s'occupe, qui te suit depuis de nombreuses années également.
Depuis... 2002.
D'accord, 2002, donc ça fait 15 ans. 15 ans, Béatrice, que tu suis Josiane.
Eh oui, ça passe vite. Hein.
Je te laisse la parole, Josiane.
Merci Cédric et merci Fernande. Bonjour Béa.
Bonjour Josiane.
Je suis un peu intimidée.
Il faut pas. Je le suis autant que toi.
Merci d'être venue sur les ondes de Transat FM.
Oui.
Ma première question, pourquoi as-tu choisi ce métier-là ?
Donc en fait, pourquoi j'ai choisi ce métier ? J'étais intéressée par de l'humanitaire pendant que j'étais en lycée. Puis en fait, après ma terminale, j'ai eu l'occasion de rentrer à l'hôpital Duchesne comme agent des ASH, c'est-à-dire agent des services hospitaliers, femme de ménage. Et très rapidement, j'étais très intéressée et passionnée par les troubles mentaux chez les patients hospitalisés en médecine, que ce soit en médecine, en pneumo et autres. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire une formation sur les troubles mentaux au milieu hospitalier, et ce qui m'a valu de m'orienter par la suite en psychiatrie comme infirmière.
Quand tu as parlé de formation,
oui.
Avant de travailler... Quelle formation, c'est ça que tu...
Quelle formation as-tu suivi ?
Pour être infirmière psychiatrique, donc, hein, ta question. Mmh. En fait, il y a eu une promotion en 83, les années 83-86, une promotion d'infirmière psychiatrique, et donc j'ai bénéficié de cette formation durant ces 3 ans. C'est ainsi que je suis devenue ensuite infirmière de secteur psychiatrique.
Oui, parce que Béatrice, toi, tu es ce qu'on appelle ISP, infirmière de secteur psychiatrique.
Voilà. Hein,
Ça n'existe plus. À l'époque, c'était des études séparées de l'infirmier DE. Vous aviez
un tronc commun avec les soins généraux. Voilà. Et les 2 autres années, nous avions notre programme spécifique en psychiatrie et pour tout ce qui était psychotrope, pharmaco.
Exactement, oui. Et en 93, ça a été regroupé après, ils ont fait
Sur Boulogne,
il n'y a eu qu'une seule promotion. Ouais, tout à fait.
Ça existait beaucoup dans les CHS, centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, comme Clermont, comme Pinel, dans toute la
région entière,
en France. Et en fait, ils avaient chacun leur IFSI et ils formaient leurs infirmiers psy directement. Ils étaient salariés, en fait,
exactement, pendant leurs études.
Ce qui facilitait aussi de la réalisation des études, puisque les gens étaient salariés et faisaient leurs études en même temps. Si je me souviens, je ne dois pas me tromper.
Oui, tout à fait. C'est pour
Alors,
ça que ça
ma troisième question.
Oui.
Aimes-tu ton métier d'infirmière ?
Donc, Josiane, je vais te répondre que si je n'aimais pas ce métier, il me serait impossible de l'exercer. Donc, effectivement, c'est un métier que j'aime beaucoup. Mmh. Et en fait, malgré toutes ces longues années, c'est jamais 2 jours pareil. C'est tout le temps différent. C'est de nouveaux patients, d'anciens patients aussi, mais qui évoluent. J'aime beaucoup.
Comment es-tu arrivée au CMP ?
Je suis arrivée au CMP parce que j'ai fait une demande, j'ai postulé, il y a eu une création de poste en AFT, c'est-à-dire en accueil familial thérapeutique. Donc j'ai postulé, j'ai été prise et je suis arrivée sur le secteur comme ça. J'avais beaucoup d'admiration pour mes collègues de secteur à l'époque et j'avais envie de faire comme elle.
Alors, ma cinquième question, quels sont tes horaires ?
Alors, mes horaires sont 8h30, 16h30. Nous faisons journée continue et nous mangeons sur place.
Tu rencontres des patients ici, en dehors de CMP et à domicile ?
Oui, on fait effectivement. Donc, on reçoit les patients ici. Nous faisons l'équipe infirmière, faisons les premiers entretiens. Donc, toutes les premières demandes, c'est nous qui les recevons. Ensuite, nous les orientons soit vers les psychologues, soit vers les psychiatres si besoin, ou si on est dans la capacité de le faire, on garde le suivi, un suivi infirmier quand c'est un suivi de courte durée sans psychiatre ou psychologue.
Alors, la dernière question, comme tu me connais bien, Béa, oui. Que tu penses-tu de Josiane avant et après ?
Donc, Josiane avant et après, eh bien, ça n'a plus rien à voir dans la mesure où tu as énormément gagné en autonomie. Tu es quelqu'un qui a passé des moments très, très difficiles. Hein. Je t'ai suivi à domicile. Maintenant, tu viens au CMP, tu as gagné de l'autonomie, ta vie évolue énormément. Et quelque part, effectivement, il y a une énorme évolution. Et je pense qu'on sera amené à se voir de moins en moins, toujours, mais de moins en moins.
Moi, je voudrais apporter des petites précisions sur le CMP. Donc, le CMP, Centre Médico-Psychologique, c'est le pivot de la psychiatrie, le CMP. Hein. C'est vraiment tout part du CMP, ça, c'est très important. Donc, ce sont des structures qui sont hyper, hyper importantes pour la santé mentale. Il y en a deux à Boulogne-sur-Mer. Donc, il y en a une place Navarin et l'autre rue Edmond-Edouin. Et il y en a deux délocalisées, donc à Marquise et à Dèvres. Ça draine énormément de gens puisqu'il y a une population à peu près de 170 000 au total. Voilà, des professionnels tous très 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 performants, très formés, avec de grandes compétences, et heureusement qu'ils sont là parce que vraiment on a besoin d'eux.
Oui, moi j'ai un rendez-vous mensuel avec mon psychiatre, hein, monsieur Oukil au CMP. Donc pour moi c'est un rendez-vous très important tous les mois d'avoir le réconfort de voir mon médecin en face de moi, lui dire que je vais bien, que enfin voilà, j'ai une vie assez bien. Et du coup, moi, ça me réconforte de savoir qu'il y a des gens qui nous ont connus quand on était hospitalisés et qui nous voient maintenant. Enfin voilà quoi, il y a les psychiatres, il y a...
Si je ne me trompe pas, Vanessa, au début, tu as aussi bénéficié d'un suivi infirmier.
À domicile, hein,
à domicile,
oui.
Il me semble, au départ.
Oui, tous les matins, voir si je vais
bien. Ce que tu raconteras plus tard dans ta rubrique santé.
Voilà.
Voilà.
Michel, tu as une petite question.
Une petite question. Combien de patients suivez-vous actuellement, à peu près ?
Par infirmière.
C'est compliqué à dire, ça, parce que...
Parce qu'il y a beaucoup, en fait, on voit beaucoup de premières fois,
ouais.
Qu'on ne suit pas forcément par la suite, ou quelquefois les gens ne les voient qu'une fois et ensuite c'est fini. Il n'y a pas de suivi, une seule fois suffit parfois. Combien de patients? Je dirais une trentaine.
Ouais.
Tu l'actives de 30, 40
30, 40,
50
ouais, voire 50. Moi, j'étais plus sur 50, mais il faudrait recalculer. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a jamais... Mais c'est une bonne question en même temps, parce que...
En moyenne, en fin d'année, on a fait à peu près 1300-1400 actes infirmiers.
Quand on enregistre, ouais. Ouais, tout à fait.
Hugo, oui. Un petit coucou si c'est possible.
Ah bah vas-y, oui.
Parce que ma nièce vient d'être diplômée infirmière de l'IFSI.
De Boulogne.
Oui, l'IFSI Boulogne, oui.
Alors si je peux préciser un tout petit peu, Camille a eu l'occasion de travailler avec nous au CMP et effectivement ce sera une super infirmière.
C'est vrai, on l'a
énormément apprécié. Alors, donc effectivement, bonjour à Camille.
Oui, bonjour. Hein. Bonjour Camille. Alors Josiane, c'est bon, avais-tu d'autres Eh bien, merci beaucoup, Béa, d'être venue.
De rien, merci à vous.
D'avoir accepté cette invitation. Ça nous fait très plaisir et ça permet de permettre aux auditeurs de connaître un petit peu le métier d'une infirmière de secteur. C'est important, je pense.
En tant que cadre de l'unité CMP, je tiens à la remercier et à remercier toutes ses collègues, toute l'équipe du CMP, parce que franchement, elles font un travail extraordinaire. Et merci pour tous ces patients qui sont suivis. Merci.
Merci à toi.
Maintenant, Elisabeth va nous présenter un livre.
Oui, Fernande, Cédric, je souhaite vous présenter le livre d'amour de Joël Artion. C'est un artiste, illustrateur, portraitiste dont j'ai découvert les fabuleux dessins en noir et blanc, essentiellement réalisés au graphite. Joël propose, dans ce livre d'une quarantaine de pages, une vingtaine de dessins, chacun accompagné d'un court texte ou poème. Il en a ouvert l'écriture à tous par le biais d'un concours. J'ai adoré cette aventure, de trouver des mots et les poser sur les émotions ressenties devant un dessin. Ça a été pour moi une très belle expérience intellectuelle, de création, mais aussi un réel plaisir. Le très beau texte qui suit, écrit par Louise Marcil sur le dessin « Un millier d'années à t'aimer » et qui représente un jeune couple tendrement enlacé, et de l'aveu de Joël très représentatif du thème de l'amour et donc de l'ensemble de son livre. « Surplombant ta tête sur mon épaule, naissant le début d'une histoire d'amour, une douceur qui pourtant me frôle, craignant plus rien jour après jour. Le charme de ta voix, tout comme ton souffle dans mon cou, me donne des ailes, prêtes pour partir loin de tout, loin des regards, loin des douleurs et des bruits, je serai ton ange pour la vie. Tendresse, caresse et ivresse, comme le vent tu m'apaises en douceur, pour unir enfin deux âmes sœurs et rêver d'une vie sans tristesse. 13. Gravé sur l'érable et porte-bonheur, heureux évocateur d'espoir, pour un millier d'années encore, te sentir, te toucher et surtout te voir. Joël m'a fait l'honneur de retenir un des petits textes que je lui avais présenté. Le dessin représente une petite fille assise sur des rochers, feuilletant, posée sur ses genoux, le livre de ta vie. Je feuillette le livre de ta vie, avide d'y redécouvrir ces moments avec toi. Pour toujours, tu seras tendrement dans mes pensées. Peu à peu, le ciel s'éclaircit sur ma vie. Permettez-moi aussi un petit clin d'œil amical à mon amie Lynn Margot, artiste dessinatrice, et qui a également écrit 3 des textes de ce livre. Voici la lectrice d'un soir. Je tourne les pages du livre de ma vie. J'invente des jours sans fin, des nuits sans peine. Je tisse le lit de mes souvenirs futurs, qui sont les poussières de mes envies passées. J'imagine les cris, les joies et les peines. L'espoir prend vie à la source de mes sourires et de mes larmes. J'imagine ma vie et je la rêve douce et forte. Joël Artion est son propre éditeur. Il soutient par ses dessins et son livre l'association Enfance et Partage, qui accompagne et aide l'enfance maltraitée. Si vous avez l'occasion de passer par les Sables d'Olonne, il fait une exposition du 25 juillet au 15 août à la Chaume Salle des Gardes, où il propose tous ses dessins et son livre.
Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette chronique.
Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette 9e émission et j'espère qu'elle vous aura plu. Les Boulons vous donnent rendez-vous pour la 10e émission le samedi 26 août à 12h30 sur les ondes de Transat FM que nous remercions pour leur accompagnement dans ce projet.
Voilà, nous vous informons également des petites infos. La fête foraine qui a pris ses quartiers d'été à l'esplanade Mariette jusqu'au 21 août. N'oubliez pas non plus la cavalcade le lundi 15 août à Boulogne. Elisabeth, tu avais également quelques petites infos à nous transmettre.
Trois expositions dans la région très intéressantes. La première au musée de Boulogne-sur-Mer, qui a été organisée par les archives municipales, c'est l'exposition Boulogne à l'heure américaine, en commémoration du centenaire du débarquement des Américains lors de la Première Guerre mondiale.
D'accord.
Toujours pour les Américains, une exposition balade artistique et historique jusqu'au 24 septembre sur les berges de la Liane. Elle présente les regards américains sur la côte d'Opale à cette époque. Et enfin, une exposition jusqu'au 15 septembre 2017 à la médiathèque du Portel. Ce sont 3 artistes portelois qui exposent. Sabrina Collard présente ses dessins, Peter Bleck ses photos et Jackie Delestré ses peintures. Je suis allée au vernissage, il faut y aller, c'est super.
Ok, ben écoute, merci beaucoup Elisabeth. À bientôt et bonne écoute pour cette dernière petite pause musicale présentée par Thomas. À toi Thomas.
Oui, bien au revoir à tous pour se quitter. Un petit dernier morceau de DJ Shadow, un compositeur d'électro hip-hop assez original. Donc un extrait de son premier album qui s'appelle Introducing, qui se nomme What Does Your Soul Look Like? À quoi ressemble ton esprit? Voilà, bonne écoute.